Bienvenue au balado « Place à l'emploi », série « Femmes sans limites ». Rencontrez des femmes qui vivent pleinement leur passion professionnelle dans un métier traditionnellement masculin. Chacune d'entre elles vous invite à tracer votre propre voie. Oserez-vous?
Bonjour Sadia, je vais te présenter. Bienvenue au podcast « Femmes sans limites ». On aborde les femmes qui font des métiers majoritairement masculins ou qui sont dans des milieux majoritairement masculins. Aujourd'hui, on a comme invitée Sadia Grogué, qui est présentement coordonnatrice au Carrefour Jeunesse Emploi de Longueuil Place à l'Emploi. Mais aujourd'hui, on va plutôt discuter de son passage en politique. Donc, Sadia, bonjour.
Hey, bonjour Cindy.
Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast et de parler de ton expérience. On va commencer par le début de ton parcours, en fait. Dans quoi tu as étudié, qu'est-ce que tu as fait comme métier et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la politique?
Alors, moi, j'ai fait mes études donc en psychologie, donc à Aix-en-Provence, où j'ai travaillé comme psychologue donc pendant quelques années en France avant de décider de venir donc nous installer toute la famille au Québec. Concernant ma décision de m'impliquer en politique, en fait, c'était en France. J'avais donc à cette époque-là donc Marissa, donc qui est mon aînée, toute jeune, là, à peine 2 ans. J'ai décidé de constituer donc un groupe politique parce que j'ai souhaité me présenter comme candidate indépendante
en France.
Donc. En France, okay. Donc à des élections, au Conseil général. J'ai donc fait ce saut parce que je revenais en fait, j'avais vécu quelques années en région parisienne et je revenais dans ma ville de naissance et là je me disais waouh, tu sais, les choses n'ont pas trop changé, les jeunes, j'habitais un quartier quand même dit difficile.
Oui.
Et je voyais donc les jeunes de ma communauté donc qui étaient un petit toujours relégués donc pas nécessairement dans des bons emplois, difficiles pour eux pour faire des études. Et là je me suis dit waouh, il faut que ça change là. Je dis bon, et j'ai décidé de faire le saut en me disant bon, si je veux pouvoir changer les choses, quoi de mieux que de se lancer en politique, d'être vraiment à l'intérieur, donc pour prendre les décisions. C'est ce que j'ai fait.
Donc, si je comprends bien, là, ce sont vraiment les difficultés sociales, entre autres pour les jeunes dans ta ville natale, qui ont fait en sorte que...
Oui, mais avec tout de même, moi, j'ai toujours été une défendresse des droits sociaux. Et je constatais qu'il y avait beaucoup d'injustices sociales. Pas de place nécessairement à tous ces jeunes de la communauté noire ou maghrébine qui avaient du mal à s'en sortir. Et j'ai dit, bon, quoi faire pour changer les choses et mieux que d'être au sein même des prises des décisions, je me suis dit que c'est la place à aller chercher, à aller prendre. Donc, mon groupe de l'époque, non, comme candidate indépendante, c'est, d'ailleurs, on en avait nommé Istres Égalité.
Okay.
J'ai fait campagne à ce moment-là, j'ai rencontré des gens sur les marchés, j'ai fait un meeting, vraiment une implication là, politique là, de terrain. Malheureusement, j'ai pas gagné ces élections, mais l'année d'après, donc on avait des élections municipales.
Okay.
Donc pour désigner un maire ou une mairesse, et là, j'ai décidé de m'impliquer à nouveau.
Okay.
Et j'ai fait partie du groupe socialiste qui présentait une liste et j'ai fait partie de cette liste et nous avons été élus. Donc à ce moment-là, en étant élue, j'ai eu un mandat de conseillère municipale.
Okay.
Pendant 5 ans. Et là, j'ai officié comme conseillère municipale. Donc, ce sont mes premiers pas en politique. Beaucoup de responsabilités. Moi, j'avais quand même les dossiers sociaux.
Donc, okay.
Je travaillais sur toutes et intégration.
Okay.
Je travaillais sur toutes les questions en lien avec, bien évidemment, l'intégration des personnes, que ce soit issues de l'immigration ou des personnes réfugiées, puisqu'on commençait à avoir à cette époque-là aussi des personnes réfugiées, et aussi tout le volet social en termes de logement, d'accès à la santé, donc et bien d'autres dossiers donc relevant du domaine social.
Donc, tu es d'emblée une personne qui est engagée, une personne qui se sent touchée par les inégalités sociales. Et puis là, tu as pris ta place là-bas en France comme conseillère municipale.
Tout à fait. C'est exactement ça. C'est sûr que dans mon parcours, donc c'est vraiment donc un aspect important pour moi là, qui concerne de faire en sorte qu'on n'oublie personne, qu'on ne laisse personne sur le bas-côté de la route. Je suis une femme de conviction quand même.
Je pense que ça prend ça là. Oui. Pour aller en politique, il faut. C'est ça qu'il faut.
Absolument, parce que on se doute pas, mais le travail politique demande beaucoup de sacrifices, parce que on passe beaucoup de temps en dehors de sa famille.
Oui.
On est présent donc pour la population. Oui. On est présent dans beaucoup de comités, dans des réunions. Donc c'est vraiment, ça prend beaucoup d'énergie, prend une organisation donc assez importante donc pour pouvoir donc conjuguer vie familiale et vie politique, et ça prend aussi pour je vais rentrer dans le vif du sujet là du coup, parce que c'était aussi ma réalité en tant que femme.
Oui, tout à fait.
De prendre sa place, de garder sa place.
Oui.
Donc parce que c'est quand même un milieu. Moi, quand j'ai commencé, c'est quand même un milieu majoritairement masculin.
Oui, voilà.
C'est sûr que il y a plusieurs années de ça, donc ça remonte là, tout de même mon implication. Mais il y avait ce constat qu'on pouvait faire que nous les femmes, on n'était pas beaucoup représentées. Et c'est quand même un milieu donc majoritairement masculin.
Donc même en France. Là,
même en France, absolument.
En France, oui.
Également, la différence que je verrais aussi par rapport au Québec, au Canada, c'est que c'est quand même un milieu très élitiste.
OK. Est-ce que tu peux nous parler de l'élitisme un peu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique?
Oui. Alors, en fait, quand je dis que c'est un milieu très élitiste, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'enfants, d'ouvriers.
Ok.
Présent dans ces sphères politiques.
Donc les gens qui sont généralement en politique n'ont pas occupé auparavant d'emplois qui seraient par exemple de la construction, qui seraient par exemple travailler en usine, etc. Ce sont plus des gens qui ont, par exemple, des baccalauréats, qui sont ingénieurs, avocats, ce genre-là, c'est ça?
Absolument, absolument. Et vraiment, ce côté élitiste, bon, c'est quelque chose qui m'a marqué. Moi, je viens tout de même d'une famille ouvrière, donc d'une grande famille aussi. Donc, ce côté-là m'a quand même... Bon, pas surpris, parce que en voyant les représentants donc politiques qu'on avait depuis des années en France, que ce soit au municipal, au département, région, puisqu'on a plusieurs paliers, et au niveau national, donc on voyait très rarement des personnes, je te dis donc issues du milieu ouvrier.
Donc c'est souvent le même genre de personnes qui décident de se présenter là.
Définitivement, mm-hmm. Définitivement, et très peu aussi de représentation de personnes racisées.
OK.
Je pense que j'étais une des premières.
T'étais minoritaire là.
Absolument. Okay. Oui, définitivement. J'étais une des premières de ma communauté à me lancer en politique, à faire partie de ce monde politique. Ce qui a été, parce que lorsque j'ai rencontré les jeunes du quartier avec qui j'ai échangé justement sur cette implication, ils étaient un petit peu, tu sais, ils y croyaient pas trop là. Ils ont les hommes et femmes politiques, c'est tous les mêmes là. Mais ce que je leur disais mais non, tu sais, moi je me suis engagée, vous pouvez le faire aussi.
Oui, donc c'est accessible à tous.
C'est accessible à tous. Mm-hmm. Ça c'était vraiment un message que j'ai souhaité partager. avec les jeunes de quartier en leur disant oui, si je l'ai fait, c'est que c'est possible. Hein, de vous rendre aussi là où je suis. Et avant la fin de mon mandat, puisque j'ai été amenée à partir, donc à vivre, donc mon conjoint a été muté, donc on est retourné vivre donc en région parisienne, puis en Normandie. Donc, et avant la fin de mon mandat, ce que j'ai réussi tout de même à semer une graine qui a porté fruit, puisque d'autres jeunes, par la suite de ma communauté, se sont impliqués.
Ah, donc tu les as vus se présenter comme conseiller municipal?
Absolument.
Oh là là.
Oui, oui, oui. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés.
Mais t'as ouvert une voie, là.
Ah, définitivement.
T'as ouvert une
définitivement.
Voie.
Définitivement. Et à date, là, jusqu'à aujourd'hui, puisque, bon, je reste en contact, puisque ma famille est encore dans le sud de la France, donc je reste en contact. Et oui, sur le plan politique, sur la représentation, on a des jeunes issus des communautés, des jeunes racisés qui se présentent, donc, génial, à ces échéances municipales.
Et là, quand tu es arrivé au Québec, est-ce que d'emblée, pour toi, ça a été une évidence de te relancer en politique à nouveau?
Ben, je te dirais que arriver au Québec, bon, quand on prend la piqûre de la politique, on prend la piqûre de la politique. On est vacciné, mais on est vacciné à vie.
OK. Comme une espèce de tic là, qui nous pique, puis voilà, c'est terminé.
Absolument. Donc je me disais, bon, je connaissais pas trop le contexte politique, donc québécois, provincial, fédéral.
Oui, parce que le système
n'est
pas exactement le même qu'en
non,
France.
Non, non, le système est carrément différent qu'en France. Donc je me disais, je commençais à m'y intéresser parce que donc je lisais, je m'informais sur les différents partis, les candidats, etc. En me disant, oh ben tiens, c'est quelque chose que peut-être un jour je referai. Mmh. J'avais toujours en arrière-plan là, vraiment l'envie, le goût de m'impliquer à nouveau. C'est sûr que lorsqu'on est arrivé au Québec, donc avec nos 4 enfants.
Oh là là.
Donc mon aîné, donc âgé de 12 ans, et le dernier donc de 3 ans.
Oh là là.
Oui. Bon, ben, s'intégrer, faire son parcours d'intégration, trouver du travail,
oui,
faire en sorte que les enfants donc puissent aussi se sentir bien dans leur nouveau milieu.
Mais carrément s'installer dans une nouvelle culture.
Absolument,
là.
Définitivement.
Oui, les Français sont cousins, mais quand même, il y a une différence là, culturelle. Elle est là.
Il y a une différence. Donc il y avait tout un temps là vraiment que j'ai consacré donc accompagner les enfants, donc à m'intégrer moi sur le plan professionnel, donc ouais, mon conjoint également. Mais j'avais toujours en arrière-plan là l'idée de refaire, de retourner en politique. En 2010, comme je m'intéressais toujours donc aux faits sociaux, je dirais, et donc le volet immigration était vraiment un volet qui venait me chercher, qui me touchait énormément.
Parce que tu venais tout juste de le vivre.
Absolument, moi je le vivais.
Parcours migratoire.
Définitivement, mm-hmm, je le vivais de l'intérieur. En plus, bon, je rencontrais pas mal de personnes aussi immigrantes comme moi, et de constater, de voir toute la difficulté de pour s'intégrer, pour s'insérer, oui, pour trouver un emploi, pour faire valoir sa formation, ses diplômes, son expérience. Je trouvais ça très, très, très difficile. Et je me suis impliquée dans pas mal de groupes.
Oui.
Et j'assistais à beaucoup de conférences sur la question. J'ai d'ailleurs donné une interview donc pour parler de mon expérience. Je me souviens, c'était à l'UQAM. On m'avait interviewé donc pour parler de cette expérience.
De ton expérience,
oui,
comme immigrante.
Oui, de mon parcours, oui, absolument. Okay. Absolument. Et j'étais vraiment dans ces réseaux-là. Je participais, je donnais témoignages aussi, je faisais témoignages donc de mon expérience, et aussi en donnant mon avis sur les difficultés, mais aussi les moyens de sortir de ces difficultés.
Oui, pour voir comment on s'aide là quand on est dans cette situation là, comment on se retrouve un réseau, comment on se retrouve une communauté, puis on on trouve les moyens de s'intégrer ailleurs. Là,
oui, définitivement. Donc, et en 2010, donc, bon, toujours intéressée par la politique, je commence à regarder donc les différents partis provinciaux, donc et aussi donc au niveau du fédéral. Et je me disais bon, comme j'étais en politique municipale, c'était pas le palier qui m'attirait le plus, je dois dire. Et à ce moment-là, je fais la connaissance d'une militante donc du nouveau Parti démocratique.
Ok.
Et elle me parle du parti, du chef de file, donc du chef, donc de l'époque, donc qui était Jack Layton.
Qui était Jack Layton.
Déjà
oui.
Là.
Donc la vague orange qui a eu lieu.
Oui,
là,
absolument.
À cette époque-là.
Oui. Donc elle me parle du parti. Je dis ah ben oui. Je dis moi ça m'intéresse vraiment. Donc je vais lire donc concernant les plateformes, donc les propositions du parti. Oui. Et ça se rapprochait.
Les axes du parti, ils étaient quand même très socialistes.
Absolument.
Très axés sur la...
Social-démocrate.
Oui, hein? Oui, vers la population, le bien-être, ouais. Les égalités, tout ça. Là.
Absolument. Donc, ça me rejoignait pas mal. Je dis, ah ben tiens, je décide de m'impliquer là, de vraiment donc, faire partie de ce parti-là. Au moment de mon implication, donc en 2011, donc ça c'était en 2010, en 2011, donc toujours impliqué au nouveau Parti démocratique, donc les élections sont déclenchées.
Oui.
Puisqu'il y a dissolution du Parlement.
Ok.
C'était pas prévu, mais ça arrive là.
Ça arrive là.
Ok, donc et à ce moment-là, on me demande si je voulais être candidate. J'en parle en famille, donc je suis de mes enfants, ils étaient quand même, mon dernier avait 8 ans, hein, à ce moment-là.
Oh là là.
Donc, oui.
Oui,
donc,
parce que, oui.
4 enfants, maman, donc, avec des, bon, déjà, à cette époque-là, j'avais une activité professionnelle, donc, j'étais conseillère en orientation.
Okay.
Dans un organisme en employabilité, donc à Montréal. On en discute en famille, j'en discute avec mon conjoint également. Je dis, écoute, bon, lui connaissant aussi, donc ma vocation, oui, c'est presque une vocation là, intérêt toujours présent.
Il connaissait très bien sa conjointe.
Absolument.
Là, il savait
absolument.
Dans quoi il s'était embarqué.
on décide ensemble. Je dis, écoute, si je m'engage pour cette échéance électorale, moi je m'engage à fond.
Mm-hmm.
Ça veut dire que je vais faire mon porte-à-porte. Je suis pas une candidate poteau là.
Mm-hmm.
Moi, je suis présente sur le terrain.
Oui.
Je suis de ces femmes là qui donnent son 200% lorsque je suis convaincue d'une cause, je me donne à fond. Donc j'ai dit dans ce cas-là, donc tu sais que c'est on avait puisqu'il était présent lors de mes premières campagnes,
oui.
Il savait tout l'investissement que ça demandait. J'ai dit écoute, il y a les enfants, moi il faut que tu sois là présent pour eux parce que je pourrais pas.
Parce que ça demande du travail du matin au soir là.
Absolument.
Même après les heures normales de bureau là, après 5 heures parce que les gens sont à la maison, donc c'est le moment de les rejoindre. Pour toi comme candidate,
oui.
Les week-ends parfois parce que on doit se présenter à des événements sociaux, des événements,
des invitations, dans la communauté, donc
oui, pour aller rencontrer justement les citoyens pour qui qui on va travailler là.
Absolument. Donc c'est 7 jours sur 7.
Oui.
Je dis bon, écoute, si t'es prêt à me soutenir de cette manière, parce que bon, vraiment, moi, ma crainte, c'était vraiment de pas être présente pour les enfants.
Mais oui.
Je dis, mais si toi, tu supplées que t'es là, tu vas faire office de maman, papa, du coup.
Oui.
À ce moment-là, moi, je peux m'engager entièrement. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, j'ai été candidate pour le comté donc de Saint-Lambert. Au moment où je me présentais en 2011, donc il s'appelait comme ça, il a changé pour devenir à l'heure actuelle donc le comté de Longueuil-Charlemagne.
Ok.
Hein? Puisqu'il y a eu une restructuration au niveau géographique.
Ok.
On a changé donc de nom du comté.
Donc tu t'es présenté au niveau fédéral.
Oui.
Pour le NPD.
Oui.
Dans le comté de Saint-Lambert.
Saint-Lambert.
Est-ce que déjà à ce moment-là tu as le sentiment d'être en minorité en tant que femme, même au Québec, après avoir fait de la politique en France, là. Est-ce qu'au Québec, tu as encore le sentiment d'être en minorité?
Absolument. D'autant plus que, même au niveau, je dis, en tant que femme, C'est sûr que Jack avait, lui, comme idée, en tant que leader du parti, de faire la parité, okay. d'avoir la parité en termes de candidats.
Donc, d'être 50% oui, hommes, 50%
femmes.
Oui,
ça faisait partie vraiment de ces propositions-là. Et donc, on a pratiquement réussi à avoir la parité. Pas totalement, mais tout de même. On était, je pense, à 45%, si je me trompe. Mais bon, je peux me tromper. Presque. Mais on était pratiquement arrivé à la parité homme-femme, mm-hmm. en termes de candidature. Donc, oui. ça, c'était vraiment... un point important et pour Jack et pour l'ensemble donc des personnes qui se présentaient à ce moment-là parité. Il a fallu alors pour avoir ce type de représentativité moitié-moitié donc la parité, il a fallu être proactif. C'est clairement le parti s'est engagé à aller chercher des femmes candidates.
Donc, il a fallu faire un peu de promotion pour dire « nous avons besoin de femmes dans l'équipe ».
Absolument, okay. absolument. Parce que les femmes en politique ne viennent pas automatiquement d'emblée.
Pourquoi crois-tu?
Je pense que pour nous, les femmes, surtout quand on a des enfants,
oui.
c'est plus difficile de faire le saut.
Mm-hmm.
Et parfois, on décide de ne pas le faire parce qu'on a la charge des enfants.
Et aussi parce qu'on a l'impression, on peut avoir le sentiment d'abandonner un peu ses enfants, de les laisser...
Oui, il y a vraiment, je pense que pour les femmes, il y a vraiment ce sentiment de ne pas être proche des enfants. Tu sais, on peut, oui, comme tu dis, on peut même parler d'abandon. Là,
comme une culpabilité.
Une culpabilité.
Oui.
Il y a définitivement une culpabilité qui peut être présente. Hein,
oui.
Pour se dire, ah oui, mais bon, je vais pas être là pour eux. Tu sais, leur petit bobo.
Oui.
Ils sont malades, ils ont de la fièvre, ils ont 40 degrés de fièvre.
Oui.
Bon, toutes ces choses de la vie quotidienne. Là,
Et c'est vraiment un double standard parce que si un homme se lançait en politique, on dirait, ben, il n'y a pas de souci, il y a maman à la maison, on ne s'inquiète pas.
Oui, absolument.
Alors que le contraire, on fait, oh, seulement papa à la maison, oui. Oh là là. Il y a vraiment un double standard,
Il y a vraiment, comme tu dis, c'est vraiment un double standard. Et on vit, en tant que femme mère,
oui.
on vit beaucoup de culpabilité à laisser les enfants.
Mm-hmm.
Je dis parce que c'est un monde, donc la politique, c'est un monde très prenant.
Oui.
On est 24 heures sur 24, donc sollicité. Si on n'est pas à la Chambre des communes en train de siéger, on est sur le terrain, on est au sein de la communauté.
Oui.
Que ce soit du lundi au dimanche, hein, donc c'est très, très, très prenant. Et moi, les enfants me disaient que je leur manquais énormément.
Ah oui, hein, oui, tu recevais ce message-là
oui,
des enfants.
Oui. Tu sais, ils me voyaient pas souvent. Parce que mm-hmm. quand je venais, c'était un coup de vent. Je déposais ma valise, je partais. J'avais une activité dans le comté, une activité à Montréal.
Oui.
Donc, les enfants ont tout de même ressenti mon absence.
Ton absence.
Oui. Bon, heureusement, mon conjoint était présent. Tu sais,
oui.
Il a pris le relais. C'est une chance.
Hein. C'est pas dans toutes les familles ça se fait bien de cette façon-là.
Oui. Donc ça s'est bien fait de ce côté-là. Je me souviens d'une petite anecdote, c'est que mon fils qui avait 8 ans, quand je revenais. Alors qu'il l'a jamais fait, il avait sa chambre, mais il venait, il dormait à côté de moi.
Ah oui, il avait besoin du réconfort.
Du réconfort de la présence de sa maman. Et une fois qu'il était endormi, on le prenait et on le ramenait dans son lit.
Mais oui.
Ouais. Donc c'est sûr que les enfants sont tout de même impactés.
Oui.
Et bon, du coup, bon, nous en tant que mère, on se dit bon, ok, si vivent ça de cette manière, bon, c'est quand même ça devient difficile pour nous aussi.
Oui, hein? Oui, absolument.
Il y a vraiment un double standard. Je trouve que les hommes décident de s'engager plus facilement qu'une femme.
Oui. Ressent moins cette culpabilité-là, peut-être,
oui,
de laisser les enfants à la maison.
Oui. Et bon, on prend les mêmes arrangements, hein, tu sais, parce que bon, même si l'homme est impliqué à la maison, le fait qu'il s'engage en politique, bon, il prend les mêmes arrangements avec sa conjointe. Mais en même temps, je trouve que il y a moins de culpabilité chez les hommes là.
Oui. Tu sais. Nous, de par le rôle traditionnel, d'être moins présent peut-être auprès des enfants.
Oui. Oui. Ouais. Hein, bien que ça a beaucoup changé hein, de
énormément.
Nos jours. Tu sais, les papas sont énormément présents.
Ah, les jeunes papas sont tout autres.
Je trouve que, tu sais, vraiment, on voit ici, il y a cette sensibilité.
Tout à fait.
Qui laisse apparaître, donc, beaucoup plus que les hommes traditionnels, nos pères ou grands-pères.
Oui, de la génération baby-boomer ou avant eux.
Absolument.
Tout à fait.
Mais n'empêche que le poids est mental, si je puis dire, est différent pour une femme et pour un homme, quoi qu'il en soit.
Ouais. J'ai encore l'anecdote en tête là, de, on se rappelle de la femme qui avait amené son bébé en chambre pour l'allaiter carrément.
Oui.
Parce que c'est une réalité là.
Oui. Il a fallu, ben justement, nous, on avait donc il y avait pas mal de jeunes femmes donc au sein de notre caucus et c'est à partir donc c'était une de mes collègues qui avait eu son premier enfant donc en tant que députée donc toujours siégeant donc à la Chambre des communes et c'est à partir de ce moment-là que à la Chambre des communes on a commencé de parler d'aménager imagine-toi
un espace mais
pour accueillir la maman et son bébé pour les temps de l'allaitement,
pour allaiter, se reposer et tout.
Il a fallu qu'on a questionné donc l'ensemble des parties. Ça a été vraiment c'est comme si à ce moment-là on se rendait compte à la Chambre des communes que oui,
ça existe. Comme si cette réalité-là n'existait pas avant que cette femme-là se présente et dise, ben, j'ai un nouveau-né, je dois l'allaiter.
Définitivement. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a on a commencé à réfléchir à cette question.
Ouais.
Et de regarder qu'est-ce qu'on va mettre en place pour accueillir justement des mamans, des nouvelles mamans avec leur bébé, un espace pour allaiter, un espace pour changer le bébé.
Oui.
C'est à partir de ce moment-là qu'on en a véritablement pris conscience.
Mm-hmm. Et c'est pour dire hein, que la politique a été tellement masculine longtemps que les locaux,
Adapté pour les hommes.
Pas adapté pour les femmes.
Oui,
incroyable. Et ça, c'est un changement vraiment majeur.
Oui. Ça, il y a eu des améliorations, bien évidemment, depuis que j'ai quitté la politique. Il y a eu, ben, justement, à partir de ce moment-là, il y a eu la prise en compte.
Oui.
Hein, de la mère et de son enfant, hein, même tout en étant députée.
Oui.
Donc, et on a quand même aménagé les choses différemment, quoi, à ce jour. Ça a quand même évolué.
Que c'est possible d'avoir ces deux rôles-là en même temps, c'est que la société n'est pas aménagée pour ça.
Aussi.
La société n'est pas aménagée pour ça, pour qu'une femme qui allaite puisse effectuer un travail de cette nature-là qui est majoritairement masculin.
Oui, la société n'est pas aménagée pour ça. Mais je dois dire également que on s'en rend compte. Il y a des statistiques là-dessus que les femmes en politique s'engagent plus tard que les hommes.
Ah, mais oui.
Parce qu'elles attendent d'avoir la maternité avant pour pouvoir s'occuper de l'enfant ou des enfants avant de passer le pas en politique. Lorsqu'on le voit, bon, actuellement, lorsque des jeunes femmes, donc ont des enfants, elles font un voire deux mandats, mais elles quittent.
Mais oui.
Parce qu'elles veulent s'occuper, être présentes pour l'éducation de leur enfant.
Mm-hmm.
Hein? C'est on a des exemples là de femmes députées hein, qui ont quitté la politique au provincial, même au fédéral, donc pour pouvoir et elles le disent. Je quitte pas la politique parce que j'ai plus envie d'être là, de servir, mais je quitte la politique parce que j'ai de jeunes enfants dont je veux m'occuper et que je veux voir grandir.
Oui. D'ailleurs, Madame la mairesse Catherine Fournier, elle est très transparente là-dessus sur ses réseaux sociaux. Elle aimerait bien avoir des enfants. Par contre, elle retarde ce moment-là parce que il y a son nouveau mandat qui s'en vient, il y a les élections municipales qui s'en viennent et tout ça. Elle s'engagerait pour un nouveau mandat, donc son projet d'avoir des enfants, elle le recule. Donc c'est une espèce de réalité biologique qui est pas prise en compte dans ses rôles politiques là. J'espère que ce sera appelé à changer.
Ben on l'espère parce que ça favoriserait vraiment la présence de beaucoup plus de femmes en politique.
Mais oui, tout à fait.
Ne serait-ce que peut-être penser au réaménagement du temps. C'est sûr, comme je te disais, c'est très prenant.
C'est demandant.
C'est demandant.
Est-ce que ça pourrait l'être un petit peu moins? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire moins de représentations pour justement allouer une espèce de conciliation de bien-être? Parce que moi, je pense que plus notre députée est en bonne santé mentale, se sent en bon équilibre avec sa famille, ben meilleur est son service à la population par la suite, là, ça vient avec.
Mais c'est sûr, je te dis, femme politicienne, 4 enfants.
Mais oui.
C'est une grande famille, ça demande beaucoup d'attention, de présence, etc. J'étais là à considérer et à aménager aussi tout mon temps dans la communauté. J'emmenais les enfants.
Ah, ben oui, mais
pourquoi
pas?
Un moyen pour moi de les avoir avec moi.
Mais c'est
qu'ils soient à côté de leur maman. Ouais, absolument. Donc j'amenais les enfants dans certaines de mes activités quand c'était possible. J'ai embarqué toute la petite famille là.
Et puis on y va. Ben sauf en chambre, on peut pas désherber les petits. J'aimerais ça, moi qui est un peu qui est citoyenne bien sûr, qui voit parfois les vidéos de ce qui se passe en chambre parce que certains extraits sont partagés au grand public et tout ça, mais c'est un peu une espèce de mystère là, les discussions qui se passent, tout ça, on regarde pas ça souvent nécessairement. J'aimerais avoir des potins là. Est-ce que tu as senti que ta présence comme femme en chambre, est-ce que tu as vécu là des inégalités de genre en chambre pendant les discussions qui se passent?
C'est sûr que c'est très, je vais appeler ça des micro-agressions.
Ouais.
Parce que bien évidemment, il y a quand même une éthique.
Oui.
Importante au sein des caucus et des groupes de députés, quel que soit le parti. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est quand même de la part de certains députés hommes, une certaine forme de sexisme.
Oui.
Oui, oui.
Dans leur
façon de communiquer avec
d'aborder
les questions.
Certaines tournures de phrases.
Absolument. Dans certaines tournures de phrases. J'ai eu à faire cette observation. Une certaine forme de sexisme là.
Oui.
Une femme députée reste une femme là.
Oui.
Donc une femme accessible vers laquelle on peut aller parler d'une certaine façon et pas d'autre, vraiment du sexisme.
Est-ce que tu avais l'impression que ces hommes-là, ces députés-là en particulier, parce que c'est vraiment pas tous, mais il y en a quelques-uns, j'imagine, qui se le permettaient, puis qui avaient cette idée-là que les femmes avaient peut-être moins leur place en politique pour une raison ou une autre. Est-ce que tu sentais que il y avait des discussions qu'ils étaient pas d'accord d'aborder parce que il y avait des députés femmes?
Non, je dirais pas ça de cette manière, tout de même, il y avait des discussions sexistes. Ah oui, nous, les hommes, en mettant de l'avant plus la masculinité.
Ok.
Un homme reste un homme, même s'il est député là.
Même s'il est député.
Oui. Il y avait des moments là, de dérapage là,
oui.
où sais, on s'adressait plus à sa collègue députée, mais à la femme qu'elle représente.
Ah, carrément.
Oui.
Donc, on s'adressait plus nécessairement à son rôle, mais à son genre.
Absolument, absolument. Mm-hmm. C'est pour ça que je disais, bon, il y avait certains des dérapages. C'est sûr que, bon, moi, j'ai occupé le poste de leader parlementaire adjointe.
Okay.
Où là, j'avais quand même comme mandat de faire en sorte que le décorum soit maintenu, faire en sorte que les députés soient là en chambre, présents en chambre, lorsque c'était qu'ils fassent leur devoir, ce qu'on appelle qu'ils fassent leur devoir en chambre. Je veillais aussi à tout ce qui était donc de l'ordre du relationnel.
Okay.
Que ce soit entre collègues, homme ou femme, peu importe.
Est-ce que tu as dû intervenir dans une situation?
J'ai dû intervenir
dans
une situation qui s'est posée. J'ai dû intervenir.
Et comment ça a influencé toi ton parcours en politique? Est-ce que à un certain moment ça t'a découragé ou est-ce que le fait que c'est un milieu majoritairement masculin, d'emblée, ça t'a fait peur de t'engager pour cette raison?
Je te dirais que non. Moi, ça m'a absolument pas découragé, puisque j'ai toujours pensé que nous, les femmes, nous avions un rôle à jouer en politique, un rôle très positif, un rôle très constructif et on a cette sensibilité que les hommes politiques n'ont pas. Lorsqu'il s'agissait de parler en chambre, lorsqu'on débattait sur certains projets de loi, je trouve qu'on abordait les choses différemment.
Donc pas sous le même angle, la même perspective.
Absolument. On mettait, par exemple, souvent dans les débats, on mettait plus l'accent sur l'humain, sur la famille. Donc on avait un angle quand même qui apportait beaucoup plus si je puis m'exprimer ainsi, mais ça n'engage que moi, beaucoup plus d'humanité et de sensibilité
plutôt que de regarder les impacts par exemple financiers, les impacts géographiques.
S'il devait y avoir des licenciements, ben on parlait de l'impact de ces licenciements sur les familles,
sur les revenus familiaux, les enfants,
les enfants, sur la conjointe, sur l'évolution de, on tenait compte de l'évolution et de tous les impacts négatifs que la famille pouvait vivre.
Je fais cette réflexion-là, de là est l'importance de cette mixité-là.
Oui.
Et dans les milieux qui sont majoritairement masculins, mais et en politique, la mixité permet tellement de regarder des problématiques et des politiques et des procédures sous tous ces angles. Donc, on a une espèce de vue 360 qu'on n'aurait pas si c'était majoritairement masculin ou même si c'était majoritairement féminin.
Oui.
Donc, on a besoin de ces deux angles-là pour être sûr que tout est couvert quand on prend une décision, là.
Oui, oui. Hein, d'autant plus que c'est 50-50.
Ben oui.
Tu parles de mixité, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que c'est se mettre en accord sur des points de vue différents.
Oui.
Sur des sensibilités différentes aussi.
Absolument.
Et qui amène quand même des perspectives qui peuvent vraiment répondre au plus grand nombre.
Oui, tout à fait. Oui.
Et c'est ça l'important et l'essentiel en politique, c'est de comme je le disais au départ, ne laisser personne sur le bas-côté de la route,
absolument,
mais faire en sorte que tous soient vus, entendus et pris en compte pour faire en sorte que nos politiques considèrent ces personnes-là, considèrent la population dans son ensemble et puissent mettre en œuvre donc des réponses politiques qui font avancer notre société et qui construisent vraiment des aspects positifs donc pour l'ensemble de la population.
Absolument. Sadia Greguet, j'aimerais te remercier énormément pour ta participation à ce podcast Femmes sans limites. Je te souhaite vraiment un superbe avenir, peut-être même de retour en politique, mais on est bien content de t'avoir dans notre équipe à Place à l'emploi comme coordonnatrice. Merci beaucoup.
Merci Cindy, ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et bon, j'ose espérer que ce podcast ait un impact positif pour d'autres femmes qui décideront donc à m'écouter de s'impliquer elles aussi en politique.
On souhaite.
Ouais, merci.